Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux acteurs et actrices engagés dans l'écologie et la solidarité sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Nous sommes en direct de 19h à 20h, l'émission sera diffusée demain de 9h à 10h et le podcast sera disponible sur le site de Radio Galère dans les prochains jours. Je suis Camille et je suis accompagnée d'Arthur.
Bonsoir.
Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Maud Rebibou, qui est chargée de mission climat, énergie et air à France Nature Environnement PACA. Bonsoir Maud.
Bonsoir.
Et Jean-Baptiste Rostin, est-ce que j'ai bien prononcé ?
Oui, oui.
Parfait. Qui est coordinateur des programmes résidents art et culture à l'Épopée.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc l'émission va se dérouler en deux parties. La première partie de 19h à 19h30 sera dédiée à France Nature Environnement PACA, avec Maud qui va nous présenter son parcours, l'association et son poste. Après la pause musicale, Jean-Baptiste présentera l'épopée, puis nous aurons une discussion sur l'éco-anxiété et la reconversion professionnelle. Et nous clôturerons cette émission en vous annonçant les prochains événements de l'épopée. Donc c'est parti Maud pour la première partie de notre émission. Donc est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel poste tu fais chez France Nature Environnement, nous dire rapidement ton parcours et ce qui t'a amené à travailler à France Nature Environnement PACA?
Oui, donc déjà merci de m'avoir invitée.
Avec plaisir.
C'est avec plaisir de venir ici. J'ai 24 ans et donc je viens de finir mes études à Sciences Po Lille. Donc 5 ans d'études en sciences politiques, donc c'est plutôt des études pluridisciplinaires. Et j'ai fait un master spécialisé qui s'appelle développement soutenable et donc qui est plutôt militant et très radical dans le sens où on essaye de comprendre quelles sont les causes de la crise écologique qui est en cours. Et donc on essaye de prendre de la hauteur et de comprendre quels sont en fait les enjeux sous-jacents à cette crise et notamment en fait les enjeux sociétaux. Et donc on essaie aussi par là même de trouver des solutions qui vont à la racine des problèmes. Et donc voilà, c'est plutôt un master qui est très engagé et j'en suis très heureuse. Et donc c'était tout naturellement en fait que je voulais trouver un métier en lien avec mes aspirations aussi personnelles et mes convictions. Et donc le milieu associatif dont FNEPACA faisait partie notamment, je connaissais déjà l'association France Nature Environnement qui est une grande fédération française, qui est d'ailleurs la plus grande fédération française en termes de nombre d'associations et d'adhérents. Et donc FNEPACA est donc une fédération régionale de la fédération nationale. Et donc je suis chargée de mission climat-énergie depuis avril. Et j'occupe ce poste pour notamment venir en appui d'abord aux associations locales de la région PACA qui ont donc besoin d'expertise sur les questions liées au changement climatique, parce que la région est une des premières à subir les conséquences du changement climatique et on le ressent beaucoup plus, je pense, depuis plusieurs années, davantage que les régions du Nord. Mais ça va amener à s'intensifier et donc c'est tout naturellement en fait que beaucoup d'associations demandent de plus en plus d'expertise, notamment en termes d'adaptation au changement climatique, mais aussi par rapport aux projets énergétiques, parce qu'il y a beaucoup de projets d'énergie renouvelable dans cette région, notamment le photovoltaïque. Je viens en appui à ces associations qui ont besoin de conseils sur les positionnements qu'elles pourraient avoir quant à des nouveaux projets d'énergie renouvelable, donc photovoltaïque, mais ça peut être aussi des projets de méthanisation, parce qu'on a aussi, on est aussi une région agricole. Il y a aussi ces questions de est-ce que nos agriculteurs doivent devenir des énergéticiens ou pas. Et donc, voilà, essayer de voir quels sont les projets qui sont vraiment vertueux ou ceux qui sont plutôt tendance greenwashing et on en profite pour mener des projets qui ne sont pas forcément vertueux, notamment sur le plan de la biodiversité. Donc voilà, déjà, je viens en appui sur ces associations-là. D'accord. Et puis ensuite, j'ai un autre volet qui est le volet R. Et donc là, c'est plutôt mener des projets qui sont en lien avec la lutte contre la pollution de l'air, parce que notamment notre région littorale est très polluée, très souvent. Et une des premières causes, notamment, c'est la pollution maritime. Et d'ailleurs, je voudrais saluer la pétition que la ville de Marseille a lancée hier. Donc, c'est tout nouveau. Et donc, nous, à FN Opaca, on est très heureux que la ville de Marseille appuie notre discours qu'on mène depuis 25 ans déjà ici à FN Opaca. Et donc, c'est déjà une avancée, une petite révolution.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la pétition
Oui.
Pour que nos auditeurs puissent la retrouver et la signer.
Je peux le dire aussi. Oui. J'ai vu cette pétition passer aujourd'hui. Je l'ai signée d'ailleurs. Donc, c'est une pétition par rapport à l'impact de la pollution maritime dans le port de Marseille. Et dans les commentaires, il y avait un commentaire qui m'avait plutôt marqué. Ça montrait en fait l'étrangeté du lancement de la pétition, où d'habitude c'est plutôt des politiques qui font des actions et les citoyens qui lancent des pétitions. Là, c'est les politiques qui lancent des pétitions. Donc, qu'est-ce qui doit se passer derrière ? Est-ce que c'est les citoyens qui vont devoir agir par rapport à cette pétition ou pas ? C'était un peu un commentaire humoristique, mais c'est sûr, c'est très simple à eux de lancer cette pétition pour pouvoir agir. Espérons que derrière, il y ait bien de l'action de la part de ces mêmes politiques pour dire, ben voilà, il y a des citoyens qui nous suivent, qui sont sensibles à ce sujet-là, il faut faire quelque chose et les personnes sont derrière nous, donc on peut et on doit le faire. Est-ce que j'ai tort par rapport à ça ?
Pour le coup, moi, de ce que j'ai compris, c'est que la ville de Marseille n'a pas la décision ultime sur qui vient dans le port. Et donc, en fait, c'est pas la ville de Marseille qui a la main à 100%. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que la pétition est encore plus symbolique et plus... Enfin, c'est une petite révolution dans le sens où, pour la première fois, la ville de Marseille, qui siège en fait dans l'instance de décision du grand port de Marseille, dit non, en fait, aujourd'hui, on n'accepte plus que nos habitants subissent la pollution maritime. Et en fait, c'est comme si la ville en fait n'acceptait même plus politiquement de subir une décision qui ne leur appartient plus.
Ils veulent reprendre leur souveraineté.
Un petit peu, ouais. Et moi, je pense que, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle, même si c'est pour l'instant symbolique, mais en tout cas. En fait, maintenant, l'action, elle doit venir aussi de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans un contexte de décision de création d'une zone CECA dans la région méditerranéenne d'ici 2025. Et cette zone CECA, en fait, c'est pour réduire les émissions de soufre qui est liée à la combustion des carburants des navires de croisière, notamment. Et donc, en fait, cette zone CECA, elle viendra se mettre en place en 2025, ce qui suppose que tous les ports de la Méditerranée qui auront signé ce traité, devront électrifier leurs ports pour éviter que les polluants arrivent sur les villes. Donc je pense que ce que veut le maire, c'est que y ait beaucoup plus rapidement en fait cette électrification des ports, parce que c'est pas en 2025 qu'aujourd'hui on suffoque,
dès maintenant qu'on suffoque.
Voilà, c'est ça. Donc je pense que ça va peut-être accélérer l'électrification des ports.
J'ai deux remarques par rapport à ça. Est-ce que ça voudra dire qu'on n'aura plus ces giga-yachts qui arrivent en plein milieu du vieux port ? Moi, je trouvais ça assez hallucinant d'avoir un yacht arriver en plein milieu du vieux port avec un hélicoptère dessus, surtout dans le contexte écologique d'aujourd'hui.
Oui, je l'ai vu, ce yacht, ça m'a choqué.
Assez hallucinant.
C'était quand ?
C'était la semaine dernière. Il avait un hélicoptère comme ça, en mode tranquillou, en plein milieu du port.
Et l'autre question, c'est par rapport à ces énormes paquebots. Au cours de mes discussions, j'avais cru comprendre que certains des giga-paquebots ou cargos ne pourraient même pas être reliés à l'électrique sur un port pour cause de puissance, parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus de puissance pour fonctionner. Et donc, niveau énergétique, ça irait même pas d'électrifier, ou alors il faudrait des infrastructures vraiment spécifiques pour la puissance nécessaire qu'ils aient.
Oui, oui, effectivement, c'est des gros travaux. C'est pour ça que le traité expliquait que ce ne sera pas avant 2025, parce qu'en fait, ça nécessite énormément d'investissements et de travaux, et que en fait, il faut aussi électrifier donc, les paquebots, ce qui signifie les démanteler, enfin les mettre eux-mêmes en travaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le port à mettre en travaux, c'est-à-dire qu'il faut aussi changer les moteurs. Enfin, il faut redémanteler les navires. Et okay. Donc, la question, pour nous, ça, c'est le minimum, en fait, juste électrifier. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est juste réduire carrément le trafic. Enfin, la question devrait être là, en fait. Mais en fait, c'est pas entendable aujourd'hui par la plupart des acteurs économiques. Bah donc, non. Nous, ce qu'on demande à minima, c'est de protéger d'abord la santé des riverains. Et donc, ça passe par l'électrification. Mais en fait, nous, notre vrai message, c'est... stoppons carrément ces trafics qui sont inutiles, parce qu'en réalité c'est peut-être 1% de la population, et c'est les plus riches en fait qui profitent de ce tourisme, et c'est en fait c'est pas entendable aujourd'hui quand on voit que les inégalités augmentent, voir ces paquebots arriver en nombre, et c'est peut-être une fois par semaine à Marseille, hein, je crois que c'est un paquebot par semaine qui arrive différent.
Peut-être sur les paquebots, mais avec les ferries, beaucoup plus. Je pense qu'il y en a pratiquement tous les jours des ferries
Contrairement aux paquebots de croisière, c'est que les ferries arrivent mais s'en vont. Alors que les paquebots de croisière restent, et donc ils émettent pendant qu'ils restent à quai, ils continuent d'émettre.
C'est surtout ça le problème.
Qui pollue le plus quotidiennement.
Et les ferries ne représentent pas du tout. C'est pas des bateaux aussi gros, hein, on le voit. Et d'ailleurs, il y a déjà une compagnie de ferry à Marseille qui a électrifié du coup ses moteurs, et donc qui n'émet pas de particules fines et de soufre en étant à quai. Et effectivement, en fait, les paquebots de croisière, ils vont rester plus longtemps. Et puis à l'intérieur d'un paquebot, il y a une consommation énergétique énorme, il y a des piscines, il y a énormément de choses.
Les déchets aussi.
qui demandent du coup au moteur de tourner beaucoup plus, de manière plus puissante que pour un ferry qui en fait n'est pas non plus un lieu de vie tant que ça, mais vraiment un moyen de transport. Enfin, en tout cas, c'est sûr que s'il y a des choix à faire, les ferries, ça reste quand même plus primordial, et puis ça a déjà été... En partie réglé à Marseille pour ça.
De bonnes nouvelles en tout cas, ça veut dire qu'il y a de la progression. On est quand même content, même si c'est pas parfait.
Ouais.
Et si je peux juste rajouter, du coup, là, la mairie de Marseille, elle se fait le porte-voix d'un collectif d'habitantes et d'habitants du 15 et 16e arrondissement qui s'est constitué pour vraiment lutter contre cette pollution qui arrive directement sur leur balcon. Donc on a déjà parlé du coup du sujet de gouvernance du port autonome, mais c'est quand même plutôt un très bon signal que la mairie soit à l'écoute et utilise un peu sa force de frappe médiatique pour relayer ce message.
Merci beaucoup Jean-Baptiste. En tout cas, ça bouge à la mairie en ce moment. La semaine dernière, on a parlé rapidement de la Cité des Transitions. Là, on parle de la pétition. Je vais peut-être te laisser continuer, Maud.
Vous propose qu'on revienne sur toi, Maud. Est-ce qu'au niveau de ta formation à Sciences Po, est-ce que tu veux revenir dessus? Est-ce que tu as d'autres précisions à ajouter, ou tu as dit tout ce que tu avais à dire?
Non, je pense que c'était assez... c'était assez explicite dans le sens où vraiment le master était vraiment centré sur les causes à la racine, et que en fait aujourd'hui si on veut vraiment s'attaquer à la crise écologique, parce qu'il n'y a pas que la crise climatique, ça je veux vraiment le montrer, c'est que aujourd'hui on vit une crise écologique dans le sens où il y a plusieurs limites planétaires qu'on a dépassées. Sur 9 limites planétaires, on en est à la 5e qui est dépassée. Donc l'extinction de la biodiversité, le réchauffement climatique. Il y a aussi la pollution chimique parce qu'on continue d'émettre des polluants chimiques que l'environnement est incapable en fait de traiter par lui-même, et parce qu'on en émet dans des quantités astronomiques, et du coup la planète limite elle suffoque en fait, pour reprendre un peu le terme anthropomorphé, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut pas juste dire on va s'attaquer qu'au réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique, c'est juste une des conséquences de notre mode de vie occidental, de nos modes de production, de nos modes de consommation. Et moi, ça me fait rire parce que là, je regardais un article sur l'annonce du gouvernement sur on l'appelle à la sobriété des Français, éteignez votre Wi-Fi, supprimez vos mails. Mais non, mais en fait, vous nous prenez un peu pour des débiles, là. Enfin, genre... il suffit pas de juste faire ça. Enfin, c'est pas juste des gestes individuels que maintenant on doit réaliser. C'est vraiment des changements structurels, des changements de société qu'on doit mener. Et c'est pas juste des petites mesurettes en mode je trie mes déchets et puis tout va bien. Non, en fait, ça c'était il y a 50 ans qu'il fallait commencer à faire ça. Là maintenant, on n'en est plus là. Et les incendies aujourd'hui nous le montrent bien. Enfin, en fait, on n'arrive même plus à éteindre le feu qu'on a nous-mêmes allumé. Donc il y a un moment donné, il va falloir qu'ils prennent aussi leurs responsabilités, nos gouvernants, et qu'ils assument de devoir mener une planification claire et nette avec une sobriété en toile de fond. Et c'est pas juste les individus individuellement qui doivent prendre cette responsabilité, c'est tout le monde, et l'État et les entreprises et les collectivités, et je pense que pour revenir à mes études, pour le coup, c'est ce qui m'a permis de comprendre que il faut avoir une vision globale et surtout pluridisciplinaire. On peut pas juste se focaliser sur une seule thématique et une seule vision de la société. Il faut vraiment prendre la société dans son ensemble. Et voilà, je ne sais pas si j'ai été claire.
C'est plutôt clair. En tout cas, personnellement, je suis assez d'accord avec ça. Les actions individuelles, on ne peut pas mettre toute la charge du changement sur ça. Moi, je trouve que quand même, elles sont utiles, ces petites actions, parce qu'elles permettent de se sensibiliser, de commencer à agir, de changer ses habitudes. Sur le long terme, ça fait quand même un impact, mais le gros du gros, quand on regarde là, je vais un peu digresser pour pouvoir mettre en image ce que je veux expliquer. Typiquement, si on fait le bilan carbone individuel, celui qui est proposé par Nos Gestes Climat sur le site de l'ADEME, donc on a plein de facteurs personnels qu'on peut changer sur l'habitation, l'alimentation, le transport, donc vraiment sur ce qu'on consomme et comment on vit. Mais une grande partie, je crois que c'est à peu près 1,4 tonne de notre empreinte, c'est à cause du système administratif français. Parce que le système, il est fait de telle sorte que c'est pas durable, et ça voudrait dire que à notre charge, on aurait 500 kilos d'équivalent carbone comme empreinte de disponible. Sauf qu'on ne peut pas vraiment vivre dans le système français aujourd'hui comme ça, avec toutes les possibilités et toutes les envies qu'on peut avoir derrière. Ça devient absurde de dire écoutez, il faut vivre comme à l'ancienne, ou réduire au maximum, et sinon c'est votre faute. Non, c'est la responsabilité des collectivités de donner aux moyens aux citoyens de justement être sobres.
Oui, typiquement les transports.
Typiquement les transports.
Et en ce moment, le vélo est gratuit à Marseille.
Oui, à cause de la pollution, la couche d'ozone, ce qui est moins
Mettez-vous
drôle.
Au vélo.
Mais parce que là, en ce moment, épisode de pollution depuis quelques jours à l'ozone, donc vélo gratuit.
Et passe 24 heures pour les métros et les trams, il me semble.
Ah bon.
Voilà.
Ah, je savais même pas, j'étais déjà abonné au vélo avec ma petite carte qui coûte 5 euros à l'année.
Oui, c'est pas ruineux, hein. C'est vrai que le vélo à Marseille, c'est quand même... Enfin, même quand il n'est pas gratuit, il n'est pas...
Il n'est pas très cher.
Il y a 1 euro la semaine, mais c'est toujours ça. Si je peux juste ajouter sur les actions individuelles et les actions collectives, il y a eu un travail assez intéressant du cabinet Carbone 4 qui a été fait l'an dernier sur ce sujet. Aujourd'hui, l'empreinte carbone d'un Français ou d'une Française, en moyenne, c'est 9,8 tonnes d'équivalent CO2 par an, en comptant les émissions induites par notre consommation, mais qui n'ont pas forcément lieu sur le sol français. Ce qu'on doit viser, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, ça veut dire qu'on a quand même 2 tonnes par personne et par an. Enfin, je veux dire, là, on parlait des limites planétaires. Enfin, on peut les respecter. On peut rester dans ce cadre-là. Là, on parle de carbone, mais c'est pareil pour les autres limites. Et donc, Carbone 4 a montré ce qui se passait si on était vraiment un héros ou une héroïne du quotidien. Si on faisait vraiment tous les efforts qu'on peut faire sur comment je mange, comment je consomme, comment je me déplace. Et on arrivait à peu près à entre 35 et 50% de la baisse nécessaire pour passer de ces à peu près 10 tonnes aux 2 tonnes. Et en fait, le reste, c'est effectivement ce qu'on dit, c'est des changements plus structurels qui vont concerner donc, notamment les services publics et puis aussi tout le schéma et le tissu économique et comment... quelles sont les règles que l'État donne aux autres acteurs économiques pour évoluer. Et en fait, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais ça, plus on le fait tard, plus la tâche elle semble insurmontable. Et quand on parle de mobilité, Aix-Marseille, c'est une métropole très particulière qui est un peu la seule de France à pas vraiment avoir un centre, mais deux, voire plusieurs. Donc c'est un casse-tête de mobilité. Et plus on est dépendant de la voiture, plus on construit notre dépendance à venir à la voiture. Je pense que quand on va dans d'autres villes de France, quand on veut faire du vélo, par exemple, on sent qu'il y a moins d'obstacles. Et au contraire, à Marseille, on peine. Donc, c'est vraiment mélanger ces deux pôles et pas les opposer, parce que souvent, du coup, ça peut être utilisé par des détracteurs comme un levier argumentaire, genre... Pourquoi est-ce que je ferais des efforts tant que l'État n'en fait pas ? C'est désespérant, mais, ouais. Mais en fait, il faut...
bien sûr. Enfin, moi, je suis complètement d'accord. Ouais. Mais c'est juste qu'on ne peut pas... en tout cas, là, dans le contexte de crise énergétique avec la guerre en Ukraine, ce que dit le gouvernement, moi, je trouve ça scandaleux. C'est juste ça.
C'est cynique.
C'est très paternaliste, limite. C'est-à-dire qu'ils se remettent même pas eux-mêmes en question. Et à côté, ils signent des... Enfin, là, dans la loi pouvoir d'achat, ils ont mis un article un peu caché d'un projet méthanier au Havre. Non mais c'est pas du tout. Déjà ça n'a rien à voir avec la loi de pouvoir d'achat et en plus de deux, on sait très bien que ça ne va pas du tout dans les objectifs climatiques qui ont été signés lors de l'accord de Paris en 2015. Ça ne va pas du tout dans, ça rentre pas du tout dans l'objectif de l'augmentation de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Donc c'est vraiment cynique.
Il faut que tout le monde prenne sa responsabilité dans cet enjeu-là. On est tous sur la même planète, donc on est tous sur ce même bateau, cet énorme vaisseau voguant dans l'espace. Et tout le monde est responsable. Donc c'est sûr, ce genre de discours ne devrait pas avoir lieu d'être. Sinon, moi je voulais faire une petite... aparté et précision sur les limites climatiques. Parce qu'on a beaucoup parlé de ces limites et du déplacement, des différentes limites, etc. Et je vous invite, il y a une très belle métaphore et un très bel outil qui s'appelle la théorie du donut de Kate Raworth. Et c'est une théorie qui permet de visualiser un peu ses limites sur différents axes, donc la biodiversité, la chimie, le climat, la consommation de nos ressources, etc., où l'on peut voir à peu près la marge qu'on a d'évolution, si on le dépasse, comment on le dépasse aussi, suivant les modèles, vous pourrez voir plus ou moins qu'est-ce qu'on a dépassé, où est-ce qu'on a de la marge, et vous informer un peu plus sur ces différentes limites.
Alors, on approche de la fin de la première partie. Donc, avant de finir, Maud, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement France Nature Environnement ? Parce que on n'en a pas encore parlé, finalement, avec toutes ces discussions.
C'est une association fédératrice de plusieurs associations locales. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a France Nature Environnement France, donc, qui est notre fédération nationale. Donc, nous, on est adhérents en tant que fédération régionale à la fédération nationale. Et au sein de notre fédération régionale, nous avons donc des fédérations départementales, donc France Nature Environnement Vaucluse, Bouches-du-Rhône, voilà. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder en fonction de là où vous habitez, votre fédération qui correspondrait à là où vous habitez, donc votre département, et voir s'ils ne cherchent pas des bénévoles, parce que je sais que nous, à FNPACA, on cherche des bénévoles.
Ah, vous avez besoin de bénévoles pour quelle mission ?
Ah non, mais en général, c'est ponctuellement, c'est-à-dire quand on a des événements à l'extérieur, on aime bien avoir des roulements de bénévoles pour montrer que toutes les générations sont impliquées et que c'est important aussi de faire vivre dans notre territoire quand on a des événements particuliers dans une ville ou dans une commune rurale, qu'il y a des gens qui sont impliqués sur ces questions-là. Et ça peut être sur les questions de biodiversité, ça peut être sur les questions de l'eau, ça peut être sur les questions climatiques, ça peut être sur les questions d'aménagement du territoire. Donc voilà, les thématiques sont diverses, donc il y a même un côté montagne aussi, donc pour les fédérations qui sont plutôt dans les Alpes d'Haute-Provence ou Alpes-Maritimes. On a aussi des associations adhérentes qui ne sont pas donc des fédérations départementales mais des associations très locales, donc par exemple Zero Waste, mais il y en a d'autres, il y a Cap au Nord par exemple, voilà. Je pense que vous pouvez retrouver toutes ces petites associations qui sont nos adhérentes sur les sites web et voilà.
Parfait, merci Maud. Alors on va passer à la pause musicale. Donc Maud, tu as choisi une chanson. Est-ce que tu peux nous annoncer le titre et nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson-là ?
Oui, alors c'est une chanson qui est assez récente, je crois qu'elle a un an. Donc c'est En colère de Emma Bitson. J'ai choisi cette chanson parce que en ce moment elle reflète ce que je ressens, de la colère, parce que je suis dans une phase un petit peu de d'éco-anxiété, enfin un petit peu beaucoup même.
On va en parler après la pause.
et donc cette colère, c'est celle que je ressens parce qu'il y a de l'inaction écologique, pas que climatique mais écologique. Et en fait, cette colère, elle s'exprime parce qu'on sait quelles solutions adopter, quelles sont les causes et quelles en sont les conséquences, quels sont les scénarios qu'on va vivre. Et en fait, on ne fait rien. Enfin, on ne va pas, en tout cas, à la hauteur des enjeux qui nous tombent dessus. Et deuxième raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson, parce que la chanteuse est aussi activiste et militante climat, et pour la justice sociale aussi, ça permet aussi de montrer que l'art via la chanson peut mêler des questions aussi politiques, et elle le fait très bien dans cette chanson, et voilà.
On se retrouve après cette pause musicale avec En colère.
T'as pas vu mes yeux, j'ai les yeux colère. T'as pas vu le feu qui rugit derrière. Sans peur. J'ai les yeux colère, les yeux sorcières. T'as pas vu le feu qui rugit derrière, qui rougit ma chair. Dans mes yeux encore vivent mes sœurs en galère, mes sœurs des terres. Si tu voyais mon corps tordant dans mes artères. Je rêve qu'être suffise, ma quête est peut-être vaine, mais je mise sur une jeunesse qui s'obstine à changer de paradigme. Que jaillisse le fluide, que tel le phénix, le yin renaisse des cendres des sorcières. Que ce que tu appelles le féminin dégouline, prospère. Nous sommes une lave en éruption, partie brûler toute forme de prédation. Toi le colon en quête de territoire, regarde bien, t'as pas fini d'en voir. Sache que nos armes sont magnanimes, mais tu verras nos mains sanguines. Tu détruis, tu sales et tu rases. Nous on plante, on guérit, on enrage.
Retour sur Radio Galère pour l'émission Écoforum. Nous sommes toujours avec Maud du FNE et Jean-Baptiste de l'Épopée, ainsi que Camille qui est co-animatrice avec moi et Sidi en régie qu'on remercie encore et toujours. Et pour reprendre cette partie, nous allons faire une petite transition sur ce que disait Maud juste avant. Elle nous parlait de la culture comme levier de sensibilisation, de dénonciation climatique, politique, justice sociale. Et justement, Jean-Baptiste est venu nous présenter un événement qui se passera à l'Épopée demain. Je te laisse la parole, Jean-Baptiste, pour te présenter toi rapidement et le projet qui a amené et sa belle histoire.
C'est ça. Donc moi, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 30 ans. J'ai fait des études de commerce et ensuite j'ai fait un master en sciences sociales appliquées à la gestion de l'environnement. Et ensuite, j'ai eu un parcours tout de suite dans l'associatif, dans une association du mouvement Emmaüs. J'ai travaillé avec un philosophe ensuite et puis... le destin m'a amené à Marseille et aujourd'hui à l'Épopée. Alors l'Épopée, c'est un tiers-lieu. Donc c'est un mot qui désigne un endroit qui n'est pas qu'un lieu de travail et qui n'est pas notre chez-soi, qui est quelque chose un peu d'intermédiaire. Donc l'Épopée, c'est à la fois un lieu qui regroupe des structures, donc des gens qui ont leur bureau à l'Épopée et qui forment un écosystème vraiment d'associations, de fondations, de PME, de start-up, d'entreprises d'insertion qui ont toutes pour ADN commun de travailler autour des questions d'innovation éducative, de comment est-ce qu'on révèle les talents des personnes, comment est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on apprend différemment, comment est-ce qu'on apprend mieux, comment est-ce qu'on apprend tout au long de sa vie. Donc il y a cet écosystème. Aujourd'hui, on est une cinquantaine de structures et ça va vraiment de, voilà, comme j'ai dit, toute une typologie assez variée. On va avoir une école d'art, un cabinet de conseil environnemental, un club de e-sport, donc la pratique compétitive des jeux vidéo. Je suis moi-même assez amateur à mes heures perdues. Enfin, vraiment une diversité d'acteurs assez énorme, mais tous réunis autour de ce grand enjeu d'un peu réinventer nos manières d'apprendre et redonner le pouvoir aux personnes, redonner de la confiance en soi, à tout le monde et à tout âge. Donc c'est à la fois un lieu de travail, mais c'est aussi un lieu de vie ouvert sur le quartier. On propose énormément d'activités. Alors ça peut prendre la forme d'activités pour des groupes scolaires. On travaille avec des écoles et des collèges du 14e arrondissement, puisque l'épopée est située à Sainte-Marthe. Donc autrefois, c'était un village de la ceinture maraîchère de Marseille qui a été progressivement rattrapé par l'urbanisation de notre ville au cours du XXe siècle, qui est située donc dans ce qu'on appelle les quartiers nord de Marseille, dans l'ancien berceau de Paul Ricard et donc l'ancien siège et l'ancienne usine historique de Ricard à Marseille. Donc on propose des activités pour les scolaires qu'on accueille à l'épopée. Et puis parfois, c'est nous aussi qui allons animer des activités de médiation artistique, culturelle, écologique à l'école de Sainte-Marthe. Ou bien on travaille pas mal avec le collège Massenet également. Et donc dans ce cadre-là, par exemple, on a accueilli Plastique Odyssée, qui est une association qui prépare un tour du monde de 3 ans avec un joli bateau bleu et blanc d'une quarantaine de mètres qui sera amarré devant le Mucem en septembre, du 23 septembre au 1er octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc Plastique Odyssée s'est fixé pour mission, en fait, à travers ce tour du monde, à la fois sensibiliser à la réduction de notre dépendance au plastique et puis du coup à des solutions plus ou moins innovantes mais en tout cas pas dans du techno-solutionnisme pour soit collecter, soit réemployer ou recycler le plastique une fois que, hélas, il a été produit. Mais vraiment, l'idée, c'est de se dire, comme on disait tout à l'heure, aussi agir sur les causes. Et donc vraiment tout un travail de pédagogie et d'interrogation sur qu'est-ce que c'est que le plastique essentiel dans nos vies et qu'est-ce que c'est que le plastique non essentiel. Aujourd'hui, 40% du plastique produit dans le monde est utilisé une seule fois avant d'être jeté. Donc y a quand même une jolie marge de progression. Donc Plastique Odyssée, ce bateau qui va partir faire le tour du monde, il dispose d'un container avec un village pédagogique des solutions qui permet d'être déployé en dehors du simple port. C'est comme si, voilà, à Marseille, le bateau il sera au Mucem, mais comment est-ce qu'on fait pour que Plastique Odyssée, dans une ville d'escale, puisse animer quelque chose en dehors de la côte. Donc nous, on a accueilli ce container le temps que le bateau se prépare. Et on a accueilli plusieurs centaines d'enfants, à peu près une fois toutes les 2 semaines au cours des 5 derniers mois, pour venir découvrir donc ces animations et ce village des solutions. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les équipes et les bénévoles de Plastique Odyssée ont progressivement, en fait, ont vraiment laissé la parole aux enfants et aux jeunes qui vivaient ce moment-là. Et en fait, ont vraiment remis en question, finalement, leur parti pris pédagogique et ce qui était présenté dans le village. Et ont finalement façonné un village 2.0 qui est très différent à la fois dans le ton, dans l'approche, dans le côté participatif des ateliers. Et pour moi, c'est aussi un peu ce que j'appelle de l'innovation pédagogique. C'est-à-dire vraiment... gagner en humilité, même quand on est savant, même quand on a fait des études, et donner la parole aux personnes à qui on est censé transmettre un savoir. Et en fait, on s'est rendu compte que les enfants de Marseille, ils avaient plein de choses à dire sur les déchets, et que souvent, en fait, juste on les écoutait pas. Donc Plastique Odyssée, c'est une des structures résidentes de l'épopée. C'est pour vous dire un peu la diversité des personnes qui peuvent se croiser chez nous. On a aussi un campus de formation, donc on accueille le PFF qui fait des formations de français langue étrangère pour des réfugiés et des personnes arrivant en France. On a un studio audiovisuel qui est également un peu une sorte de micro-école, une micro-école de formation aux métiers de l'audiovisuel pour des personnes qui ne pourraient pas se permettre de faire des études et une vraie école d'audiovisuel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la bulle créative. C'est vraiment un studio de qualité professionnelle où on va avoir des personnes qui ont peut-être rêvé de faire ça, mais qui vont vraiment mettre le pied à l'étrier et en même temps avoir du coup des livrables, des productions musicales et vidéo de très bonne qualité. Donc l'épopée, c'est un peu tout ça, et on pourrait
en parler encore longtemps.
On pourrait en parler encore longtemps.
Une émission.
Si je peux juste du coup finir et faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, le lien entre l'art et l'écologie, par un, on va dire, un heureux hasard, on a un voisin à Sainte-Marthe qui nous a présenté un groupe de six musiciens du Congo, qui vient de Kinshasa. C'est un groupe qui s'appelle Fulumiziki Collective et qui fait de la musique uniquement avec des outils récupérés en décharge, dans la rue. Donc vraiment, ils transforment un peu leur regard. Et puis après quand même, ils ont des scies, des marteaux, etc.
Mais bricoleurs.
Hein. Ils créent des percussions et même des basses et des guitares artisanales entièrement avec des tonneaux, des bidons, des cuivres, des tubes de PVC, etc. Qui trouvent en décharge, que ce soit à Kinshasa ou ici à Marseille. Ils sont installés à Marseille depuis quelques mois et donc... ce voisin nous a dit est-ce que ça vous intéresserait peut-être de les accueillir en résidence. Donc on est très très heureux de les avoir à l'épopée en ce moment pour une durée de 10 jours pour faire autant de vacarme que possible, et on réalise deux ateliers participatifs avec les enfants du quartier, un qui a eu lieu cet après-midi et un qui aura lieu demain après-midi. Donc là, une partie des instruments est déjà finalisée et une autre partie a besoin d'un coup de finition. Et donc, demain soir, aura lieu à l'épopée, sur notre terrasse, une performance. C'est pas vraiment un concert, c'est une performance jam où en fait, les enfants et puis toutes les personnes qui viennent et qui le souhaitent pourront aussi... mettre la main à la pâte, tester les percussions. Donc il y aura des moments assez endiablés, parfois peut-être un peu dissonant ou participatif, mais vraiment ça promet. Donc c'est un after work, donc qui réunit à la fois les personnes qui travaillent à l'épopée et qui en général, en sortant des bureaux, sont ravis de trouver ça en bas de leur bureau, et puis aussi les habitantes et les habitants de Sainte-Marthe et toute personne à Marseille ou même qui souhaiterait venir de plus loin pour cette performance, et puis ensuite du coup un petit DJ set, et voilà. Donc on propose régulièrement en fait des événements comme ça.
Et attends, ça sera à quelle heure demain?
Ça ouvre à 17h30. Et normalement, le début de la performance, ça devrait être entre 18h et 18h30.
D'accord, merci. Ouais.
En tout cas, ça a l'air très, très sympathique, ça, tout ça. T'es des musiciens zéro déchet. Moi qui aime la musique et qui aime et réduire mon empreinte, mon gaspillage, ça me tente bien. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Et surtout, c'est une très belle histoire, je veux dire... On parlait un peu rapidement des tiers-lieux comme des fois aussi des lieux qui font des liens entre les quartiers, les institutions, les professionnels. Et là, c'est un très bel exemple qu'on voit, un habitant du quartier qui vous met en lien pour faire des événements. Je trouve ça assez magnifique comme exemple. Et sinon... est-ce que tu as d'autres quelque chose à ajouter?
Je t'ai coupé tout à l'heure en demandant l'heure.
Non, enfin moi je voudrais juste, enfin je trouve que c'est intéressant de creuser ce, voilà, ce lien entre l'art et puis du coup nos représentations culturelles et l'écologie. Aujourd'hui, parfois, on a quand même des artistes qui ont à la fois dans leur pratique peut-être beaucoup de consommation de ressources pour faire des statues en résine. Il y a des pratiques artistiques qui sont pas zéro déchet, bien au contraire. À l'inverse, il y a des artistes, j'ai un ami qui s'appelle Côme Di Melio à Marseille qui travaille avec du mycélium et en fait il crée des œuvres en faisant coloniser un mélange de sciure et de carton par du mycélium et ça donne in fine un matériau qui est très sculptural, qui parfois ressemble à du marbre, parfois à du velours. Et qui, quelques mois plus tard, après la fin de l'exposition, va finir finalement comme du compost. Donc il y a des artistes qui se creusent littéralement la tête quand même pour justement réduire l'empreinte de leur pratique. Et c'est pas parce que c'est de l'art que ça doit être intouchable ou incritiquable. Et puis en général les artistes une fois qu'ils deviennent connus ils renvoient aussi une image au monde et si on pense à Marseille quand même on est un peu la capitale française du rap et souvent les rappeurs les plus connus ils sont pas forcément connus pour leur sobriété ou
c'est plutôt dans le bling bling en effet.
Voilà, et c'est dommage parce que en fait, quand on est amateur de rap, on se rend compte que c'est pas du tout un paradigme obligatoire pour un rappeur ou une rappeuse connue, et que c'est un peu un filon, une allure qu'on se donne. Mais je pense que les personnes vraiment connues ont une responsabilité de ce point de vue-là. Puisque finalement c'est pas des états, c'est pas des entreprises mais elles ont finalement une influence aussi sur nous toutes et nous tous.
On pourrait encore en parler beaucoup justement entre les influenceurs qui font des allers-retours, trois allers-retours à Dubaï
par semaine,
les footballeurs. On a beaucoup d'autres des exemples comme ça, ça pourrait même faire l'occasion d'une émission entière je pense, tellement les exemples sont nombreux
au moment de la Coupe du Monde au Qatar peut-être
ouais, avec la climatisation en extérieur. En bref, je vous propose de passer à la suite de l'émission parce que le temps tourne rapidement.
Il ne reste que 10 minutes.
Et donc, on a choisi l'angle d'attaque de l'éco-anxiété, mais tout ce que tu nous disais, je trouve que c'est une très belle façon de soigner, entre guillemets, cette éco-anxiété, puisque agir d'une façon plus responsable tout en faisant quelque chose qui nous fasse plaisir, de l'art pour partager aux autres, de l'art de visuel, musical, c'est... pour moi, une très belle façon de réussir à agir contre son éco-anxiété. Je veux dire, faire des choses, faire son boulot, donner de la joie autour de soi, du divertissement, tout en étant assez responsable. Je trouve que c'est un très bel exemple pour lancer cette discussion officiellement.
Et peut-être pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu le terme d'éco-anxiété,
ouais, je pense qu'une est-ce que l'un de vous deux,
en mode, tu veux nous définir l'éco-anxiété ?
Alors, je ne vais pas utiliser une définition officielle, mais je pense que l'éco-anxiété, chacun le vit d'une manière différente, et donc ce sera peut-être juste ma propre définition de l'éco-anxiété. Mais je pense que beaucoup de personnes vont s'y retrouver quand même. C'est en fait la... Comme le nom l'indique, c'est une anxiété, voire une dépression, par rapport en fait à la crise écologique dans laquelle on est, et notamment en fait le manque de la sensation qu'on n'a plus de perspective en tant que jeune génération, en tout cas pas la même perspective et pas la même échelle de temps que nos parents ou nos grands-parents auraient pu, enfin peut-être pas les grands-parents parce qu'avec les guerres je préfère tempérer, mais plutôt nos parents sur la perspective qu'on a de l'avenir. On n'a pas cette échelle de temps sur laquelle on peut se projeter et avoir des projets de vie que nos parents auraient pu avoir. Des enfants, une maison, un métier, la retraite, vivre heureux, vivre vieux. Non, en fait, je pense que beaucoup de... J'ai vu un sondage récemment, là, 75% des jeunes Français de 18 à 30 ans sont éco-anxieux. C'est 75%. Ben, on est quand même... Enfin, je trouve que c'est quand même inquiétant. Ça veut dire que la jeunesse de notre pays, et je pense que, enfin, il y a beaucoup d'autres pays qui vivent, qui expérimentent ce fait social, parce que c'est un fait social maintenant. Ça veut dire que la jeunesse, elle est plus en phase avec la société dans laquelle elle vit, et ça veut dire qu'elle n'est, enfin, elle n'est plus dans la même contribution. Elle n'a plus la même idée de la société. Et donc, ça veut dire qu'il y a un décalage fort entre ce qu'on veut et ce que la société nous donne. Et c'est hyper inquiétant parce que nous, on est dans l'urgence, on est dans la survie limite, j'ai envie de dire, parce que là, les incendies nous le prouvent bien, on est dans la survie. Et je pense que la montée des eaux aussi va nous vite nous rattraper dans quelques décennies. Et nous en tant que jeunes, parce qu'ici on est à table, on a moins de, tous moins de 30 ans. Et en fait, on va subir plus qu'on va vivre quelque chose. Et typiquement, moi, l'éco-anxiété, ça se manifeste par de la dépression, enfin des phases de déprime, de la colère. Dixit la chanson. Mais ça peut aussi par de la tristesse et en fait du désarroi. Donc par exemple, j'ai pris acte il y a 4 ans de ne pas faire d'enfant. Parce que j'ai pas envie que mon enfant souffre en fait. Enfin, je sais qu'il va souffrir. Donc si j'aime vraiment quelqu'un, je vais pas l'emmener en pâture. Enfin, je sais que je vais pas l'amener en enfer. Donc je préfère être altruiste. Parce que pour moi, c'est un acte altruiste. Si j'avais été égoïste, j'aurais choisi d'avoir un enfant. Mais de manière altruiste, je choisis de pas lui faire subir ce qu'il y aura de pire dans le futur. Parce que là, c'est qu'un avant-goût, en fait, ce qu'on vit. Et pourtant, on a l'impression que c'est déjà l'enfer. Mais en fait, non, ça va pas s'arrêter, le réchauffement.
C'est que le début.
Et c'est que le début. Et vraiment, cette phase d'éco-anxiété, enfin, cette éco-anxiété qui est permanente, c'est vraiment, je pense que les parents aujourd'hui devraient faire attention à leurs enfants et voir en fait que, enfin, il faut pas les laisser déprimer. C'est-à-dire que je suis adulte, j'arrive à gérer, mais je pense qu'il y aura beaucoup de plus en plus de jeunes adolescents qui vont se sentir mal et qui vont peut-être pas forcément le comprendre au début. Et je pense que les parents devraient s'en inquiéter parce que surtout via les réseaux sociaux où on est dans l'instantanéité de l'information et où en fait la peur peut vite prendre le dessus et en fait l'inaction individuelle peut aussi du coup nous ramener, nous dire bon ok, il y a tellement de trucs insurmontables que je vais juste me terrer dans mon lit et plus rien faire. Mais non, en fait, je pense que les anxiétés, justement, ça se soigne par l'action et parfois, pourquoi pas, par de l'action directe et la désobéissance civile quand c'est légitime. Je sais pas si l'un de vous veut rebondir, mais sur la définition, par exemple, je sais pas.
Ouais, non, mais je pense qu'effectivement, c'est un fait social, mais étant donné qu'il est assez récent, il n'y a pas vraiment de définition officielle, et je pense que chaque personne qui ressent de l'éco-anxiété peut la ressentir de manière différente. Moi, je dirais que c'est un peu un mélange avec deux dominantes qui peuvent être l'urgence et l'impuissance. Le fait, nous, d'être une génération qui, pour l'instant, a peu de pouvoir, peu d'influence sur les décisions du coup de notre société en tant que groupe de personnes. Et pourtant, les personnes qui sont le plus amenées dans le temps à vivre les effets de notre comportement passé et actuel. Donc de toute façon, on l'a un peu dit, c'est pas quelque chose dont on sort ni en un claquement de doigts, ni même en faisant du coaching, du travail. Enfin, ça peut être assez cruel. Ça peut être effectivement beaucoup entretenu par les mécaniques de réseaux sociaux. Donc là, en ce moment, quand même, on est en pleine canicule. C'est vrai, il y a 2 jours, quand on ouvre Twitter et qu'on prend 12 vidéos des incendies d'affilée, On a vraiment l'impression d'être dans un très très mauvais film, et enfin voilà, ça s'entretient. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, c'est plus un choix à l'échelle individuelle de se dire, je ressens une dissonance cognitive entre l'état du monde et les directions un peu majeures de notre société, et ce que moi je pense vraiment être bon pour respecter les fameuses limites planétaires et pour essayer d'arranger les choses. Donc je m'engage, et je pense que, enfin, on disait tout à l'heure, l'épopée ou d'autres lieux comme ça, la vertu de ces lieux, c'est peut-être aussi de retrouver d'autres personnes prêtes à s'engager, et du coup de refaire du collectif, d'agir en tant que communauté, et donc de ne pas être chacun dans son coin. Ça ne veut pas dire que ça va faire passer le problème, mais en tout cas, ça...
Se sentir moins seul peut-être, et moins démuni.
Un exemple pour nos éditeurs et auditrices qui nous écoutent, moi j'avais fait le programme Réaction par Make Sense, qui justement propose d'agir et de s'informer autour des diverses thématiques liées au développement durable et qu'on essaie de soigner, et de proposer des actions par rapport à ça, et aussi de créer un groupe pour avoir une dynamique et ne pas être seul autour de ça. Parce que l'important, c'est justement de ne pas être seul pour pouvoir pallier cette éco-anxiété. Moi, l'éco-anxiété, je l'ai pallié un peu par l'acceptation. J'ai accepté qu'aujourd'hui c'était mal barré, qu'on allait dans le train dans le mauvais sens, mais qu'il fallait se battre. Et donc maintenant, juste, je me bats avec mes moyens au fur et à mesure dans mon quotidien, dans le boulot que j'aime et qui a du sens pour moi. Donc c'est aussi une façon de réduire son éco-anxiété, c'est de faire de sa vie l'outil pour justement pallier tous ces problèmes dont on a conscience. Et c'est ça qui est important, en fait. Voilà. Ça va être la fin. Donc c'est le moment de rappeler le cher événement qui se passe demain à partir de...
À partir de 17h30.
À partir de 17h30.
Si vous arrivez avant, vous pourrez quand même boire un verre en terrasse. Hein,
ouais. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le lieu, l'événement, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi?
Bien sûr.
Qui sont arrivés en cours de route.
L'événement, donc, c'est une performance du groupe congolais Fulu Miziki, qui travaille uniquement sur des percussions et des instruments fabriqués avec des objets récupérés. Et notamment, on a une ressourcerie à l'épopée, donc on a récupéré pas mal de choses grâce à la ressourcerie. Ce concert, il est suivi et accompagné, enfin cette performance, elle est suivie d'un afterwork, donc une sorte d'apéro avec à la fois de la nourriture, de quoi se rafraîchir également. Ça a lieu à l'épopée, donc c'est à Sainte-Marthe dans le 14e arrondissement de Marseille, c'est au 4-6 rue Berthelot. Vous pouvez venir en train, il y a la gare de Sainte-Marthe à 50 mètres littéralement de l'entrée de l'épopée, c'est 7 minutes depuis Saint-Charles. Il y a également le bus 31 qui vient de Canebière, Centre-Bourse, y a un petit parking à vélo pour l'instant.
On privilégie les transports en commun.
Et si vous voulez vraiment venir en covoiturage, on a un parking également. Voilà, c'est fini.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Et au revoir.
Merci Maud et merci Jean-Baptiste.
Merci.
Merci.